Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous du lundi au vendredi de 15h à 16h. Aujourd'hui, pour bien démarrer la semaine, votre émission Santé-Bien-être prend ses quartiers à Roland-Garros. Et oui, Europe 1 est la radio officielle du tournoi. Et donc, comme tous les jours, que ce soit dans les locaux d'Europe 1 comme ici à Roland-Garros, il est bien échauffé, c'est le docteur Jimmy Mohamed.
Oui, bien échauffé, mais déjà blessé, donc je vais rester assis tranquillement. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Allez, on fait ça assis, d'accord. Au sommaire aujourd'hui, ce lundi, pour bien démarrer cette semaine qui s'annonce sportive, que faut-il pour bien bouger sur un court de tennis ou ailleurs, il faut avant tout bien dormir. Alors on va faire un focus sur un trouble du sommeil fréquent, à savoir le syndrome d'apnée du sommeil. Ces pauses respiratoires nocturnes qui sont source de fatigue, mais attention aussi de maladies cardiovasculaires. Alors comment les dépister, ces apnées, comment les soigner? Nous ferons le point avec le professeur Marie-Pia Dorto. Elle est chef du service de physiologie, exploration fonctionnelle et du centre du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris. Ensuite, comme tous les lundis, Benjamin Lévesque nous rejoindra pour sa chronique beauté. Il a décidé de nous parler des lumières LED qui sont capables d'améliorer la qualité de notre peau, de gommer les boutons, les rides, les taches, rien que ça. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme qui se demande si elle peut vraiment confier ses désirs les plus secrets à son compagnon.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le tabac. Du coup, on a décidé de sélectionner deux questions autour de ce sujet. On va commencer par cette question d'Asma. On l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie, je me posais une question. On sait que le tabac, c'est très mauvais pour la santé, mais j'ai entendu dire que ça faisait vieillir plus vite et que ça abîmait la peau. Et du coup, comment c'est possible? Merci de me répondre et bonne journée.
Alors pour vous répondre précisément, Asma, sur cette question, nous avons interrogé pour vous le docteur Nadine Pomared, elle est dermatologue à Paris.
Le résultat du tabac sur la peau, on s'en aperçoit assez rapidement, c'est-à-dire qu'on a un teint gris, on manque d'éclat, des ridules apparaissent plus précocement sur les joues. C'est lié au fait que le tabac est un oxydant majeur de la peau et donc va détruire les fibres collagènes, va agir de façon négative sur la peau. La fermeté de la peau, elle est liée à des fibres dans la peau qui sont les fibres collagènes et les fibres d'élastine. Or, le tabac va détruire, va abîmer ces fibres collagènes et d'élastine et par conséquent, des ridules vont apparaître. La bonne nouvelle quand même, c'est que ces effets sont en partie réversibles si on arrête de fumer. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle.
Voilà, c'était le docteur Pomared au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, comme tous les jours. C'est Lydia qui nous a appelé avec une interrogation. Elle aussi, aujourd'hui, sur l'arrêt du tabac. On l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie. J'ai entendu dire que quand on arrête le tabac, les effets sur notre santé se voient tout de suite, tels que l'essoufflement, la respiration. Est-ce que ces effets sont immédiats? Merci beaucoup de votre réponse.
Jimmy, bon, c'est une très bonne question, parce que fumeur ou pas, on ne le sait pas toujours quand on arrête le tabac. En fait, les bénéfices pour la santé, ben, y en a qui sont vraiment immédiats.
Oui, on pense qu'il faut souvent attendre très longtemps avant de ressentir un bénéfice, mais dès 8 heures d'arrêt du tabac, votre quantité de monoxyde de carbone diminue dans le sang de moitié et l'oxygénation de vos cellules redevient normale. Au bout de 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent et au bout de 2 semaines seulement, le risque d'infarctus commence à diminuer.
Alors Jimmy, reste qu'arrêter de fumer et je sais de quoi je parle. C'est éminemment compliqué, notamment en raison de la dépendance à la nicotine.
Oui, et cette dépendance, elle est souvent sous-évaluée par les fumeurs. La plupart disent pouvoir arrêter, mais n'ont pas conscience réellement de l'impact et de leur dépendance à cette nicotine. Pourtant, il existe un test tout simple qui vous permet de savoir à quel point vous êtes addict à cette nicotine. Il suffit de répondre à 6 questions sur vos habitudes de fumeur, comme par exemple, combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette?
Moi, c'était 2 minutes.
Ça veut dire que vous êtes très dépendante à la nicotine. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? Ou encore, si vous devez fumer lorsque vous êtes malade, au point de devoir rester au lit presque toute la journée. Et en fonction de ce score, on vous dira quel est votre niveau de dépendance.
Alors justement, pour les fumeurs qui nous écoutent, il faut rappeler que pour arrêter, il ne faut pas hésiter à se faire aider parce qu'il y a même des solutions gratuites et ça aide vraiment. Hein.
Oui, gratuite et remboursée par la collectivité, en tout cas prise en charge, car plus on est dépendant, plus on aurait besoin d'aide. Les patients, je vous ai dit, ont tendance à sous-doser la dépendance à la nicotine et du coup sous-doser les patchs ou les gommes à mâcher. Je vous rappelle une règle toute simple, une cigarette correspond grosso modo à 1 mg de nicotine. Si vous fumez 20 cigarettes par jour, ça veut dire que vous avez besoin de 20 mg pour ne pas ressentir le besoin. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'est plus nécessaire d'avancer ces substituts nicotiniques car ils sont intégralement pris en charge par la collectivité sur prescription médicale.
Et enfin, Jimmy, se faire accompagner par un professionnel aussi, c'est important et ça augmente même les chances de réussite.
Et oui, sachez qu'un fumeur aura plus de chances d'arrêter s'il est accompagné par un professionnel comme votre médecin traitant, un tabacologue ou encore un psychologue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Tabac Info Service ou appelez le 3989 pour justement avoir un tabacologue en ligne. Et tout ça, c'est gratuit.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va tout vous dire sur le syndrome d'apnée du sommeil. Ça touche qui? Comment savoir qu'on fait peut-être des pauses respiratoires la nuit? Comment ça se traite? Surtout, on y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h en direct de Roland-Garros. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Bienvenue professeur Marie-Pia Dorto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de physiologie, exploration fonctionnelle et du centre du sommeil à l'hôpital Bichat-Claude-Bernard à Paris. Et donc avec vous, on va décortiquer ce qu'est le syndrome d'apnée du sommeil. On dit aussi dans le jargon, je crois, SAOS, donc oui, pour l'acronyme hein, tout simplement. C'est quoi précisément ce syndrome? Comment on le définit?
Alors le SAS, le syndrome d'apnée du sommeil, est défini par la survenue d'apnée pendant le sommeil. Donc les apnées, ce sont des pauses de la respiration et pour les prendre en compte, il faut qu'elles durent au moins 10 secondes, mais parfois elles durent 20, 30, 40, voire beaucoup plus. Et on va définir un syndrome d'apnée du sommeil par la survenue d'apnée du sommeil en nombre supérieur à 5 par heure de sommeil. Ensuite, selon le nombre d'apnées, de cet index d'apnée-hypopnée, on va définir différents niveaux de gravité des syndromes d'apnée du sommeil modestes, jusqu'à 15 apnées par heure, puis modérés de 15 à 30, et puis sévères au-delà de 30.
Alors quand on parle d'apnée du sommeil, on comprend que les patients vont mal dormir, mais est-ce qu'ils ont conscience d'avoir un sommeil de mauvaise qualité?
Alors pas toujours, et c'est bien le piège de cette maladie. Très souvent, les patients effectivement se réveillent avec l'impression d'avoir eu un sommeil de mauvaise qualité, mais pas toujours, parfois c'est asymptomatique, on dort et on ne se rend pas compte qu'on ne respire pas bien.
Pour beaucoup de gens, finalement, le syndrome d'apnée du sommeil, ce sont des gros ronfleurs. Est-ce que d'ailleurs, on ronfle systématiquement? Est-ce que, on va voir, tous les gens qui ronflent ne sont pas des apnéiques, mais est-ce que tous les apnéiques sont des ronfleurs?
Alors, il y a deux niveaux de réponse à cette question. Parce que d'abord, là, on a commencé, bille en tête, à parler des apnées obstructives. Et je reviendrai sur les mécanismes juste après. Il y a deux grands types d'apnées. Alors, bien sûr, c'est schématique, donc un petit peu faux, mais un petit peu vrai quand même. Il y a les apnées obstructives, les apnées centrales. Les apnées centrales, on n'en parlera sans doute pas aujourd'hui, parce que c'est une pathologie relativement rare, sauf circonstances particulières. Les apnées obstructives sont effectivement accompagnées de ronflements. Vous l'avez dit, tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques, mais les apnéiques qui ont des apnées obstructives sont ronfleurs.
Mais où est-ce que se trouve l'obstruction? C'est dans le nez, dans la gorge, sur la langue?
Alors, le SAOS est une pathologie des voies aériennes supérieures. Ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, ce sont les voies aériennes qui vont conduire l'air à partir du nez et de la bouche jusqu'à l'entrée de la trachée, donc jusqu'au niveau des cordes vocales. Ces voies aériennes forment une espèce de tuyau, si vous voulez, qui est bordé par des parois qui sont molles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartilage. Et donc, ces parois peuvent, enfin, le diamètre des voies aériennes supérieures peut être plus ou moins important. Quand on est réveillé, ces voies restent largement ouvertes grâce à l'action des muscles dilatateurs du pharynx. Quand on s'endort, ces muscles se relâchent, comme tous les muscles du corps, et donc les parois vont s'affaisser un petit peu et rétrécir le diamètre des voies aériennes supérieures. Si elles sont déjà un peu étroites, ça rétrécit tellement que ça gêne le passage de l'air, ça donne du ronflement. Si c'est encore un petit peu plus étroit, ça gêne le passage de l'air au point de donner ce qu'on appelle une hypopnée, c'est-à-dire une diminution significative de la respiration, voire ça bloque complètement le passage de l'air, ça donne une apnée. Le fait qu'il y ait une apnée s'accompagne de diminution du taux d'oxygène dans le sang, d'un petit ralentissement de la fréquence cardiaque, ça envoie des signaux d'alarme au cerveau qui du coup réveille, ça remet les muscles en tension, les voies aériennes se réouvrent, la personne respire à nouveau, puis se rendort et ça se referme. Et c'est le mécanisme des apnées successives au cours du sommeil.
Alors est-ce que c'est très fréquent dans la population, enfin en tout cas à quel point?
Alors les chiffres les plus récents issus d'études en population et en France donnent une prévalence de l'ordre de 10 à 12%. Après, ça va être beaucoup plus fréquent dans des sous-populations, par exemple chez les gens qui ont déjà une hypertension sévère ou qui ont déjà une maladie cardiaque ou qui sont déjà diabétiques. Mmh. Il y a une telle intrication entre l'apnée du sommeil et ces pathologies-là qu'en gros, ça va concerner un patient sur trois à un patient sur deux.
Mais est-ce que c'est une maladie qui est bien diagnostiquée? Est-ce qu'il n'y aurait pas un sous-diagnostic, notamment quand on est seul? Parce que souvent, c'est peut-être le conjoint qui traîne le patient, le malade chez le médecin.
Il passe un truc la nuit qui n'est pas normal, je t'entends.
Oui, non seulement c'est chiant, mais en plus, ils arrêtent de respirer. Mais du coup, il n'y a pas un sous-diagnostic quand on est
seul. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est souvent l'entourage qui tire la sonnette d'alarme, conjoint ou voire compagnon de chambre quand les gens vont partir en vacances et voyager. Sous-diagnostic, c'est certain, parce que c'est des pathologies qui sont relativement récentes, pour lesquelles on n'est pas très bien formé en médecine, en tout cas dans le cursus initial de formation. La pathologie commence à être connue, mais ça reste encore largement sous-diagnostiqué, c'est vrai.
Bon, on a dit quand même qu'il y avait des ronfleurs hein, dans ces gens touchés par cette maladie. Ce sont des hommes, essentiellement, il n'y a pas de femmes.
Malheureusement, si, il y a des femmes aussi. Dans deux circonstances favorisantes. D'une part, les apnées du sommeil sont très corrélées au poids. Tous les apnéiques ne sont pas en surpoids, ils ne sont pas obèses, mais inversement, d'être obèse ou en surpoids favorise les apnées du sommeil. Et puis, les femmes après la ménopause sont autant concernées que les hommes.
Ah, donc, avec une population qui vieillit de plus en plus, on peut imaginer qu'il va y avoir de plus en plus d'apnéiques du sommeil du côté des femmes. Et puis, on prend un peu de poids, donc on peut aussi imaginer qu'on va en avoir de plus en plus. Vous en voyez plus ces derniers temps ?
Alors, on en voit davantage. Maintenant, il est difficile de dire si c'est parce que... il y a une double raison, c'est-à-dire que les médecins traitants sont de plus en plus alertes vis-à-vis de cette pathologie. Et puis, la population vieillit, la population grossit. Mais il y a un papier qui est paru en 2019 sur une estimation au niveau mondial. Il y aurait 1 milliard d'apnéiques potentiels. Oui. Donc, des chiffres gigantesques.
Et vous disiez les femmes après la ménopause, mais pour quelle raison ? C'est juste notre âge qui nous fait rejoindre les hommes finalement, ou il se passe quelque chose physiologiquement ?
Alors deux choses, l'âge évidemment. Quand on vieillit, et une question de l'auditrice en tout début disait on a des rides, etc. On a des rides à l'extérieur et puis on a les tissus à l'intérieur qui sont aussi un petit peu plus flaccides, donc l'âge. Et puis à la ménopause, il y a moins d'hormones féminines. Or les hormones féminines sont protectrices sur tout ce qui est fonction respiratoire.
C'est une bonne explication. Professeur Dorto, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on vous détaille cet après-midi ce qu'est réellement le syndrome d'apnée du sommeil. Tiens d'ailleurs, comment savoir réellement qu'on en souffre et qui consulter si on a un doute ? Comment se fait le diagnostic ? On vous dit tout juste après. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous en direct de Roland-Garros durant presque toute la quinzaine. Alors elle est toujours avec nous en studio. C'est vous, professeur Marie-Pia Dorto, vous êtes chef du service de physiologie, exploration fonctionnelle et du centre du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris. Et donc, on fait un éclairage cet après-midi sur l'apnée du sommeil. Alors c'est quoi les signes qui doivent alerter ? On a un petit peu amorcé ça déjà tout à l'heure, mais qu'est-ce qui doit me faire penser que tiens, peut-être je souffre d'apnée du sommeil si j'ai pas un conjoint qui râle déjà depuis quelques mois.
Eh bien, en fait, vous avez des signes qui se déroulent pendant la nuit, des éveils brutaux par étouffement, sensation d'étouffement nocturne, le besoin d'aller uriner plusieurs fois dans la nuit, le fait de transpirer éventuellement beaucoup.
Uriner, c'est quoi le rapport avec la respiration ?
Eh bien, en fait, quand on fait des apnées du sommeil, ça fatigue le cœur, et un cœur fatigué produit une hormone qui fait produire de l'urine.
Ah,
et donc,
d'accord.
On fait beaucoup plus pipi.
D'accord.
Et puis, évidemment, les signes au réveil, où on se réveille avec l'impression que, bien qu'on ait une nuit complète, on est complètement fatigué, l'impression d'un sommeil non réparateur, voire au maximum une somnolence. La somnolence étant le fait de s'endormir dans des circonstances ou à des horaires inhabituels. Par exemple, à 10h du matin, alors qu'on a une nuit de durée normale, on ne devrait pas être somnolent.
Et du coup, vous avez dit qu'un des facteurs de risque, c'était le surpoids, mais en quoi être un peu gros nous fait plus d'apnée du sommeil ? C'est la langue qui grossit ? Est-ce qu'on a plus d'obstacles quand on est gros ?
Absolument. Quand on est en surcharge pondérale, en surpoids, l'infiltration graisseuse concerne tous les tissus.
On grossit de la langue alors ?
Et donc on grossit de la langue, on grossit du cou, et donc tout ça vient rétrécir le diamètre des voies aériennes.
Vous avez dit aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément en surpoids. Tous les apnéiques ne sont pas en surpoids. Mais chez certains, c'est clairement juste, je ne sais pas si ça suffit, mais une mauvaise hygiène de vie, on va dire, du tabac, de l'alcool. Mais là, pareil, en quoi le tabac, ça va me faire ronfler et avoir des apnées la nuit ? En quoi l'alcool, le fait de boire de l'alcool peut-être le soir, pareil, ça provoquerait ce problème-là ?
Alors, je reviendrai sur l'alcool et le tabac juste après, mais vous disiez tous les apnéiques ne sont pas obèses. En fait, si on a des voies aériennes qui sont étroites parce qu'on a une petite mâchoire ou parce qu'on a une langue qui est trop grosse par rapport à la mâchoire ou parce qu'on a le nez complètement bouché plus un gros voile du palais, on peut ne pas être obèse et avoir des apnées du sommeil. L'alcool va jouer sur le tonus musculaire, en fait. Il va favoriser le relâchement musculaire et donc favoriser le mécanisme qu'on évoquait tout à l'heure, favoriser la fermeture des voies aériennes. Le tabac, c'est un mécanisme qui est un peu proche, c'est-à-dire que le tabac donne une inflammation des tissus.
Un peu chronique tout le temps.
Voilà, hein, c'est ça. Et donc avec de l'œdème, et donc là aussi, les tissus vont occuper plus de place.
Alors, vous avez dit qu'avec l'apnée du sommeil, on dort moins bien, donc le matin, on se réveille, on est plus fatigué. Et moi, quand je suis fatigué, je suis de mauvaise humeur, donc je vais être irritable.
Pas que, d'ailleurs, hein, même pas quand que. Vous dormez bien.
Mais ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas possible de passer à côté du diagnostic en disant, finalement, monsieur, madame, vous êtes dépressif, vous dormez beaucoup et puis vous êtes de mauvaise humeur et on passe à côté d'un vrai apnée du sommeil?
Absolument. Alors après, il ne faut pas non plus que tous les dépressifs commencent à s'inquiéter et se précipiter en disant, je suis sûr que j'ai des apnées du sommeil. Mais c'est un diagnostic qui est important à éliminer. Effectivement, il faut se poser la question des apnées du sommeil.
Qui je vais voir si je pense avoir les signes que vous avez décrits précédemment et que je me dis peut-être moi je souffre de ça, mon généraliste peut gérer déjà au départ?
Bien sûr, le généraliste peut gérer au départ et il faut poser les bonnes questions à propos de la qualité du sommeil, de l'existence de ronflements, de facteurs de risque, etc.
Et c'est peu connu, mais il existe des médecins du sommeil, donc
les centres du sommeil avec des centres que vous dirigez d'ailleurs.
Exactement. Et où est-ce qu'on les trouve d'ailleurs? Il n'y en a pas partout.
Alors, les centres du sommeil, vous pouvez vous connecter au site internet de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, dans lequel il y a un annuaire des centres du sommeil. Sinon, on l'évoquait, les médecins traitants, les généralistes savent vers qui orienter, et notamment en ville, ce sont beaucoup les pneumologues qui font des enregistrements pour faire le diagnostic d'apnée du sommeil.
Justement, quel examen il faut faire pour avoir la confirmation? Parce que bon, il y a l'interrogatoire, vous posez toutes ces questions sur la qualité de vie, le sommeil vraiment en lui-même, mais après, comment vous le prouvez? Vous m'enregistrez la nuit, je crois.
Voilà, il faut enregistrer la respiration pendant la nuit avec deux grands types de méthodes. Des méthodes qui sont de type Holter, c'est-à-dire qu'on vous pose le matériel, vous rentrez dormir chez vous et puis le lendemain matin, vous rapportez le matériel.
Ça va, c'est pas trop contraignant, je fais ça chez
moi. C'est pas trop contraignant. Et puis, si on suspecte une autre pathologie du sommeil ou si le premier enregistrement a donné des résultats douteux, à ce moment-là, on fait un enregistrement complet de la respiration et du sommeil, qui s'appelle une polysomnographie.
Et du coup, est-ce qu'il y a un délai d'attente pour ces examens?
Jimmy, il fait des selfies avec les gens à Roland-Garros, en même temps il est là avec nous.
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, on est dans des espèces de cages de studio aménagés, il y a des gens qui passent et qui nous regardent et qui nous font des sourires.
Bah oui, on leur sourit.
Moi je les souris, en même temps je tiens l'émission. Allez, tout se passe bien. Est-ce qu'il y a un délai d'attente, puisqu'on sait que l'accès aux soins est parfois difficile en France, est-ce que c'est long d'avoir accès à ce genre d'examen?
Alors c'est évidemment, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais les délais de rendez-vous sont très longs. Après, on a des processus, tous les centres de sommeil ont des processus de priorisation des patients. En fonction du terrain, de la gravité suspectée, on peut accélérer le diagnostic.
Et ils le prennent comment, les patients, quand le verdict tombe? C'est une apnée du sommeil, c'est pour toute la vie, a priori, hein, donc
Alors, c'est pour toute la vie, mais en même temps, il y a des traitements, et j'imagine qu'on y reviendra après. On n'est pas coincé dans un type de traitement, c'est une maladie chronique, mais qui peut évoluer favorablement.
Professeur Dorteau, on va continuer, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes, ne bougez pas. Europe 1. Sans rendez-vous, revient dans un instant et on va passer évidemment au traitement de cette apnée du sommeil. Il en existe plusieurs possibles, on va vous expliquer de quoi il s'agit et surtout pourquoi il est très important de les mettre en œuvre sérieusement. Grâce à eux, on réduit notamment drastiquement les risques de complications au niveau cardiaque. On va tout vous détailler, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être de retour très vite, juste après un peu de musique. C'est Martin Garrix avec le titre qui est l'hymne de l'Euro, « We are the people ».
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. You faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind.
heart that hurts is a heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Martin Garrix sur Europe 1 avec l'hymne de l'Euro, We Are The People.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Dans un instant, on retrouve notre invité pour parler d'apnée du sommeil. Mais avant, n'oubliez pas, Europe 1 vous fait gagner 2 places à Roland Garros pour la finale de votre choix. Homme ou femme, c'est vous qui choisissez. Pour jouer et avoir une chance de gagner, envoyez tennis au 739-21. Le tirage au sort s'effectuera le mercredi 9 juin. Allez, je vous rappelle, c'est tennis au 739-21. Bonne chance à tous.
Tennis au 739-21.
75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans ce rendez-vous et nous sommes donc toujours en direct depuis notre studio à Roland-Garros. Donc Europe 1 est la radio partenaire du tournoi. Notre invité pour notre grand dossier consacré à l'apnée du sommeil est toujours avec nous. C'est vous, professeur Marie-Pia Dorto. Je rappelle que vous êtes chef du service de physiologie, exploration fonctionnelle et du centre de sommeil à l'hôpital Bichat à Paris. On va passer à la prise en charge, au traitement de ces patients. Avant tout ça, je crois que pour tous les patients, quelle que soit la raison, la cause de l'apnée, de ce syndrome d'apnée, il y a d'abord une prise en charge avec des mesures hygiéno-diététiques, c'est systématique ça?
C'est systématique, on l'a évoqué tout à l'heure, la surcharge pondérale joue un rôle non négligeable, et puis éventuellement la prise d'alcool, le tabac, donc ça fait partie du lot.
Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on perd du poids, on peut vraiment améliorer son apnée du sommeil? Est-ce que on peut se dire qu'il faut quoi, perdre 5 kilos, 10 kilos? Est-ce que dès quelques kilos, on peut déjà espérer avoir moins de symptômes?
Tout à fait. On a des patients pour lesquels le traitement en cours a pu être arrêté parce qu'avec la perte de poids, les apnées avaient disparu. En revanche, il n'est pas possible de prédire combien de kilos il faut perdre. Il y a un effet seuil. Donc,
Bon, on va pas plomber l'ambiance, mais on va quand même rappeler pourquoi il est primordial de traiter cette apnée du sommeil. C'est quoi les risques au long cours quand on ne traite pas?
Alors, il y a des risques. Vous avez parlé des risques au long cours. Il y a les risques à court terme. Déjà, quand on est somnolent, on a plus d'accidents, que ce soit des accidents domestiques, des accidents de voiture, des accidents du travail. Et donc, ça, c'est un facteur majeur de complication des apnées du sommeil. Très, très vite, d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil modéré multiplie par 7 le risque d'accident de voiture. Donc déjà, la mortalité ou la morbidité immédiate, c'est la morbidité accidentelle. Et puis tout ce qui est lié au fait que on est de mauvaise humeur, on est ronchon, on peut... etc. À moyen et long terme, ce sont essentiellement les complications cardiovasculaires. Toutes les complications cardiovasculaires, hypertension, infarctus, accident vasculaire cérébral, et puis des complications de type métabolique, notamment le diabète de type 2.
Alors on va parler des traitements conventionnels juste après, mais d'abord un mot de certains traitements comme des outils avec un gilet, avec un coussin dans le dos ou un vibreur qui permettrait de nous aider dans certains cas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Ça, ces traitements-là sont indiqués quand les apnées surviennent exclusivement en position dorsale. Ça arrive notamment, et ça peut arriver en particulier chez le sujet mince, qui n'est pas obèse, et chez qui la langue va basculer en arrière et venir se plaquer contre le pharynx.
Ça marche juste aussi très bien pour les simples ronfleurs. Hein.
Absolument.
Des petits coups de poing comme ça sur l'épaule, il se met sur le côté et ça marche très bien.
Ça marche très bien.
Aussi efficace qu'un coussin, je vous l'assure.
Et donc ça peut tout à fait rendre service sur des apnées positionnelles.
Et puis si ça marche pas, là, il faut passer à autre chose. Il y a des orthèses d'avancée mandibulaire. Alors rien que le nom, ça fait
tellement
peur. Torture,
ça fait très peur.
Qu'est-ce que c'est?
Mais en fait, c'est comme un protège-dents de boxeur. Une gouttière pour les dents du haut, une gouttière pour les dents du bas. Simplement, les deux gouttières sont solidarisées et propulsent la mâchoire inférieure vers l'avant. Et donc, en propulsant la mâchoire vers l'avant, ça tire la langue vers l'avant aussi. Et ça dégage l'espace derrière la langue. Donc, ça élargit les voies aériennes.
Et donc, dans des cas, certains cas, ça donne de très bons résultats. Absolument. Mais parfois, il faut passer à ce qu'on appelle la ventilation nocturne à pression positive. Alors ça, c'est le fameux masque qu'il faut porter la nuit. Ça agit comment ?
Ça agit en faisant respirer un air dont la pression est un peu supérieure à la pression atmosphérique. Alors tout ça sont des termes un peu compliqués. Pour décrire un phénomène très simple, quand vous soufflez dans un ballon de baudruche, le ballon il s'ouvre. Oui. Et bien là, la machine pousse de l'air et ça ouvre les voies respiratoires et du coup la respiration peut se faire tranquillement.
Et là, l'efficacité, c'est quoi ? C'est du 100% ?
C'est du 100%. C'est du 100% modulo la tolérance. Évidemment, quand on dit ventilation nocturne, on se dit oh là là, ça va être pénible, ça va être pénible.
Le masque d'Arc Vador pour dormir, pas super sexy non plus.
C'est pas très sexy, ouais.
C'est voilà. Clair. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. C'est pénible, mais c'est super efficace. Et donc, quand on se réveille en forme le matin, qu'on est plus fatigué, qu'on est plus somnolent, c'est hyper précieux. Ensuite, Dark Vador, c'est amusant que vous disiez ça, parce que des patients qui le prennent comme ça, mais on peut transformer ça en jeu et dire, oh bah oui, je suis un pilote d'aviation, etc.
Le tout, mettre des paillettes sur le masque.
Exactement, mettre des paillettes sur le masque, exactement. Et puis, ça n'est pas bruyant. C'est moins bruyant qu'un ordinateur. Donc, c'est quasiment pas bruyant. C'est moins bruyant qu'une clim.
Et moins bruyant que des ronflements.
Et beaucoup moins bruyant que des ronflements. Donc pour l'entourage, c'est assez agréable. Ensuite, vous disiez, c'est pas très sexy. Un petit commentaire. Quand on est fatigué de partout.
On n'est pas sexy, on n'a pas de libido non plus. C'est ça que vous voulez
exactement.
Dire.
Exactement. Et en revanche, quand on est plus fatigué, on est plus fatigué de partout. Et il y a beaucoup de patients.
On porte le masque, on peut l'enlever la nuit pour faire ce qu'on a à faire. Du coup, on est en forme. Mais, donc
j'étais très marquée au tout début de mon exercice. Un patient que j'appareille, 75 ans, 15 jours après, il me rappelle en me disant, docteur, c'est génial votre truc. Il y a des trucs que je faisais plus depuis 15 ans.
Vous avez tout compris. Tout ça, c'est pris en charge. Tout ce dont on vient de parler, on est d'accord ?
C'est pris en charge.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Dorto, pour cet éclairage sur l'apnée du sommeil et ses traitements. On l'a compris. Donc, au vu des conséquences sur la santé globale, il est important de consulter au moindre doute. Bonne continuation à vous et merci encore.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, la chronique beauté de Benjamin Lévesque sur les lumières LED pour les soins de la peau qui font disparaître les petits boutons, les rides et même les taches. Rien que ça. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h et nous sommes en direct de Roland-Garros aujourd'hui pour cette chronique beauté de Benjamin Lévesque. Alors aujourd'hui, Benjamin, vous allez nous mettre des étincelles plein les yeux puisque vous allez nous parler d'une méthode tendance qui consiste à prendre soin de sa peau grâce à la lumière. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors c'est ce qu'on appelle la lumière LED. Alors je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les UV qui, eux, sont néfastes pour la peau. Là, on va utiliser une autre partie de la lumière du jour qui va avoir des effets biologique sur la peau. Un peu comme pour les plantes, la lumière va aider au bon fonctionnement de nos cellules cutanées et va donner un effet antioxydant, un effet réparateur.
Alors Benjamin, de quand date cette technique révolutionnaire ?
Vous voulez tout savoir,
oui,
moi,
oui.
Eh bien, on l'utilise en médecine esthétique depuis grosso modo une vingtaine d'années, mais à l'origine de cette découverte, elle remonte beaucoup plus loin aux travaux d'Einstein et cela a ensuite été développé par des cosmonautes de la NASA, comme nous le raconte...
C'est quoi les cosmonautes ?
Les cosmonautes de la NASA, comme nous le raconte le docteur François Michel.
Tout ça, c'est dérivé des travaux d'Einstein sur l'utilisation des photons, leur nature. Et puis la NASA, dans les années 60-70, parce qu'on cicatrise mal en apesanteur, comme dans les sous-marins, et la NASA cherchait un moyen pour faire cicatriser les astronautes. On a pensé à utiliser les diodes pour faire de la lumière cicatrisante en sélectionnant les longueurs d'onde et donc les couleurs. D'autre part, on a eu l'idée d'émettre cette lumière non pas de manière continue, mais en quelque sorte en pointillé, vous voyez, comme clignotant très rapide. On s'est rendu compte que ça améliore énormément la production de collagène et donc la cicatrisation et la qualité des peaux quand la peau est saine et qu'on l'expose.
Alors Benjamin, cette lumière, elle va agir sur quoi précisément ? Jimmy, c'est l'histoire qui l'intéresse, mais moi je veux savoir si ça agit sur les boutons, les taches, les rides et comment.
Eh ben c'est un petit peu à la carte, puisqu'en fait il y a plusieurs types de LED avec plusieurs couleurs différentes qui chacune va avoir un effet différent sur la peau. Si on prend la lumière bleue par exemple, elle va calmer la peau, elle a des propriétés antiseptiques donc parfaites contre une acné légère. La jaune, vous allez l'adorer Mélanie, c'est la lumière qui va booster l'élasticité de la peau donc va réduire les rides. Et la verte, quant à elle, elle va agir sur les taches, comme l'explique Laetitia Fontanelle, la fondatrice de Lovely Spa à Paris.
Alors elle va plus être sur la prolifération de la cellule et on optimise la cicatrisation avec la verte. Elle est moins utilisée. Elle utilise, en tout cas, elle optimise la cicatrisation de la cellule. Les Asiatiques aiment beaucoup la verte aussi parce qu'elle a une action sur l'éclat et elle agit aussi sur l'hyperpigmentation. Donc on l'utilise sur certains protocoles anti-taches.
Enfin, la lumière rouge, elle est pour vous, Jimmy, c'est la lumière anti-inflammatoire qui va réguler la glande sébacée.
C'était anti-mauvaise humeur. Mais
donc, anti-mauvaise humeur et une bonne solution pour les peaux grasses.
Alors, Benjamin, le reporter de choc, de terrain, comment se déroule justement une séance de LED?
Eh bien, ça dure une vingtaine de minutes. On vous démaquille, alors pas pour moi, mais généralement. Et on va choisir quelle lumière on va utiliser en fonction de votre peau pour lui redonner de l'éclat. Mais je vous propose plutôt d'écouter le reportage au Lovely Spa à Paris.
Alors, je vous installe, j'applique le drap d'examen, le fauteuil est prêt, vous allez pouvoir vous allonger pour recevoir le traitement du protocole.
D'accord, je vous suis.
Benjamin, maintenant, nous allons passer à la consultation. Donc, vous allez pouvoir retirer votre masque, je puisse visualiser votre peau.
Alors, comment est ma peau?
Elle est très sensible, hein, votre peau. Je pense que vous rougissez assez facilement.
Oui.
N'est-ce pas, je le vois. Qu'est-ce qui vous soucie le plus sur votre visage?
Quelques petites imperfections, non, vraiment pas beaucoup. Des petites taches.
On va agir avec la lumière bleue en mode pulsé pour travailler sur la séborrhée et l'action bactéricide en surface. Et on va aussi avoir de la jaune qui va synthétiser donc la structure de la peau et optimiser la cicatrisation et redonner de l'éclat.
J'ai mis de la crème de jour ce matin, est-ce que c'est grave ou pas?
Non, pas du tout, je pourrais utiliser telle quelle. L'essentiel c'est de ne pas avoir de peau maquillée, mais comme vous êtes dans un spa expert, je vais nettoyer votre visage avant l'installation de la LED. Benjamin, je vous mets des lunettes.
D'accord, pourquoi? Est-ce que ça peut être dangereux pour mes yeux?
Non, c'est pour éviter d'être ébloui et pour plus de confort pendant le soir. Donc là, maintenant qu'on a installé les lunettes, je place le planeau le plus près possible du visage et la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous allez recevoir un massage anti-stress du cuir chevelu.
Ah bah c'est génial. Et donc Mélanie, Jimmy, il y a quand même plus dur comme reportage, non?
Effectivement, et vous avez la belle vie vous quand même, hein. C'est pas.
J'ai une bonne mine.
C'est du reportage de terrain, vous testez tout. Non mais j'adore. Jimmy, comment on se sent?
Benjamin.
Jimmy, parce que vous n'avez pas eu la chance d'y aller malheureusement. Benjamin, on se sent comment après? Vous aviez l'air pas mal quand même.
Ça sent reposé, lumineux, je pense que ça se voit. Et un petit peu comme quand on rentre de vacances d'été, sauf qu'on n'a pas de coup de soleil. Et ça fonctionne sur tous les types de peau, hein, qu'elles soient blanches ou foncées. Et vous pouvez le faire comme en été comme en hiver. Rien n'est gratuit, il faut compter 50 euros la séance. Et puis, donc on a beaucoup parlé du visage, mais on peut aussi faire des séances de LED sur le corps, notamment pour améliorer l'aspect des vergetures.
Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du lundi. Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes, ce sera après un peu de musique. C'est Michel Polnareff avec son titre Radio. Thank you. Sur Europe 1 et son titre Radio.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, depuis le tournoi de Roland-Garros. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Mylène. Elle a 27 ans, je vous la lis. J'aimerais essayer la pénétration anale avec mon copain, mais je n'ose pas lui en parler. J'ai peur qu'il me juge. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors Catherine, on reçoit de temps en temps des questions sur la pénétration anale, mais des questions toujours abordées avec de grosses pincettes. Pourquoi aujourd'hui, ça reste encore aussi tabou ce sujet?
Bien tout simplement parce que la nature veut que la sexualité se concerne généralement tout ce qui est reproductif et donc concerne les sexes et pas un sexe et l'anus de l'autre. Donc par définition. Maintenant, il y a aussi parce que cette zone-là est une zone consacrée évidemment à des choses, à des fins moins sexy que sont la défécation et bien souvent la difficulté de le voir comme quelque chose d'érotisé est complexe pour les uns et les autres. Et encore une fois, ça, c'est légitime. On a le droit de trouver ça complexe, on a le droit de trouver ce lieu dégoûtant. On peut s'interroger, il n'est pas nécessairement dégoûtant. On a en tout cas le droit de ne pas vouloir l'érotiser. Mais donc, évidemment, c'est savoir comment l'autre le vit et qu'est-ce qu'on peut en dire, en faire. Et les femmes, et j'aime bien cette question parce que c'est une femme qui se pose la question de pouvoir l'évoquer et qui craint le regard de son partenaire, alors que généralement, les hommes sont un peu plus enclins à l'évoquer très naturellement comme pratiquement un incontournable, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment.
Oui, parce que vous l'avez presque dit, mais c'est une demande à la base plutôt des hommes que des femmes, non? C'est ça, c'est un fantasme plus masculin.
C'est la première fois qu'on a une femme qui pose la question sur notre antenne, en tout cas.
Mais pourquoi c'est une obsession des hommes, d'ailleurs?
Parce qu'il y a l'idée, d'abord, l'homme a une idée, le fait d'avoir un pénis qui est pénétrant, enfin, qui est un organe pénétrant, tout ce qui se pénètre l'intrigue beaucoup. Où est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer là? Est-ce que je peux rentrer là? Est-ce que je peux rentrer là?
Mais il va pas mettre son zizi dans une serrure de porte, donc...
Non, mais vous savez, les petits garçons, ils aiment bien mettre des pétards dans les fourmilières, ils aiment bien mettre les doigts dans les prises, ils aiment bien... C'est plutôt les garçons qui font ça, pas les petites filles. Donc l'idée de pénétrer un orifice est un truc de garçon. Et puis en plus, pour ce qui est de l'anus, eh bien, il y a l'idée qu'ils seront plus contenus, plus serrés, puisque l'anus est un muscle, contrairement au vagin, qu'il n'est pas, bien qu'il soit entouré de muscles. Et donc il y a l'idée d'être plus contenu et d'avoir quelque chose plus à forcer, à conquérir un territoire. Et puis souvent, nombre de femmes sont ne veulent pas. Et donc c'est celui qui ose, comme s'il y avait une idée de virginité de ce côté-là, qui peut penser à une certaine défloration. Et donc, une sorte d'excitation, de domination chez certains hommes.
C'est vrai que les doigts dans le nez, c'est un truc de garçon. C'est peut-être ça, en fait. C'est pour ça qu'on se décrotte le nez plus que...
Alors, il n'y a pas eu d'études sur le décrotage de nez, mais ça pourrait être intéressant.
Et pourtant, la pêche est bonne, parfois.
Bon, elle dit, Mylène, qu'elle a peur que son copain la juge. Pourquoi elle a si peur, si c'est son compagnon depuis un petit moment? Et peut-être qu'en plus, s'il se trouve, ça, il aimerait bien aussi, d'ailleurs. Pourquoi ça, autant de crainte?
Parce que, évidemment, ça révèle l'envie d'être très sexualisée de toutes parts, d'être pleine, d'être remplie de toutes parts. Et donc, il y a souvent le sentiment qu'on n'est pas dans une sexualité normale, au sens élégante, au sens féminin, alors que les hommes peuvent être dans des trucs trash. Et c'est entendu comme une sorte de légitimité à tort, bien sûr.
Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare, la sodomie, ou est-ce qu'elle peut, tout d'un coup, pendant le feu de l'action, se dire « tiens, allons-y », ou est-ce qu'elle doit l'aborder avec son compagnon avant ?
Ah bah alors, de toute façon, puisque ce sera lui qui sera pénétrant, c'est en général...
C'est elle qui devrait se préparer, je pense, mais...
Voilà.
Non, mais... Ça te dirait qu'on essaye ou durant... Oui. Voilà,
en
lui
disant... Alors, en même temps, ça peut se faire dans le vide de l'action. Vous n'avez pas en parler avant, finalement.
Non, mais dans l'action, effectivement, on peut amener... Parce qu'encore une fois, ça me permet de dire une chose qui est importante, c'est que souvent, les pénétrations, les gens ne les envisagent que c'est le pénétrant qui pénètre l'autre, donc qui agit. Mais celui qui est pénétré peut prendre le pénis pour être pénétré. Donc, ce n'est pas nécessaire. Nécessairement, l'homme qui introduit son pénis dans un vagin, c'est peut-être une femme qui introduit le pénis de l'homme dans son vagin. Et à ce titre, elle peut donner l'indication d'une autre direction qu'il pourra lui dévier si ça ne lui convenait pas. Et donc, à ce moment-là, c'est pas réinsister, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Si un homme allait comme ça, sans en parler, de ce côté-là et que la femme n'était pas disposée, il faut accepter qu'un mouvement de rein, un mouvement de main redirige dans la bonne direction. Ouais. Ben, c'est vrai du côté masculin comme du côté féminin. Encore une fois, dans la sexualité, c'est toujours le respect de l'émotion du moment. Ça ne veut pas dire, si ça ne se fait pas à un moment, que ça ne se refera pas à un autre moment. Mais il faut écouter les timidités d'un temps ou les impossibles absolus.
Si elle tient absolument à préparer le terrain, elle dit qu'elle veut lui en parler, comment on aborde ce sujet-là avec son copain ?
Dire, j'ai des désirs, des curiosités, des fantasmes qui me font rougir. Je ne sais pas très bien qu'en faire. Qu'est-ce que
tu me dis surtout ne m'en parle pas, elle arrête là.
Voilà, exactement. Vous savez, c'est toujours la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc on est obligé dans la sexualité, plus que jamais dans la sexualité, de veiller à cela.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc je vous dis à demain, merci de nous avoir suivis. Tout de suite place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter tous les jours. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
On reste nous aussi à Roland-Garros.
Nous aussi on est à Roland-Garros aujourd'hui. On va dire d'abord qui est vraiment Roland-Garros.
Parce que tout peu monde, de gens le savent.
Oui, ils pensent tous c'est un joueur de tennis. Et puis alors on parle de tennis, Suzanne Lenglen. Vraiment la divine, la diva de la terre battue.
Exactement, et puis moi je vous parlais d'un Français qui est chaque année en finale à Roland-Garros. Bon, évidemment pas sur le court, plutôt dans les tribunes, c'est Patrick Bruel.
C'est drôle.
Merci beaucoup messieurs, on sera bien sûr à l'écoute à Roland-Garros ou pas. Et vous aussi qui nous écoutez, restez sur Europe 1.